Alors, bonjour à tous. Installation pour être en face du micro. Ça va aller. Voilà. Je pense que c'est bon. Ça va, vous m'entendez? Moi, je m'entends alors. Et je m'entends dans le micro, donc je pense que vous m'entendez. Donc bonjour, effectivement, ce matin nous allons parler de l'article sur le credo qui nous dit « Je crois » ou « Nous croyons » en l'Église, une, sainte, universelle et apostolique. Cinq mots qui sont importants et qui pourraient servir de fil conducteur à nos réflexions. L'Église. Qu'est-ce que l'Église ? Une. Comment vivons-nous l'unité ? Sainte. Comment peut-on parler de sainteté, de sanctification, alors que nous entendons parler de tellement de maux et de mauvais témoignages dans les diverses églises ? Universelle. Elle est la même partout, pour tous. Mais alors, pourquoi tant de dénominations ? Apostolique. Est-ce que sa mission continue à être de poursuivre le témoignage des apôtres ? Ou bien est-ce qu'elle se sent parfois plus investie d'être une œuvre sociale ? Vous le voyez, il y a là matière à riche et long débat. Et dans mes recherches, je me suis amusée à considérer certains types d'églises que nous présente le livre « Pour une foi réfléchie » dans son chapitre sur l'Église. Alors j'ai ainsi trouvé qu'il peut y avoir différentes catégories d'églises selon qu'on met l'accent sur l'une ou l'autre de ces spécificités. On peut ainsi rencontrer l'église musée, où l'on veut valoriser l'héritage et respecter la tradition. L'église, salle de spectacle, qui ne veut pas passer. Ah, il y en a plusieurs qui sont passés. Donc l'église, salle de spectacle, où le culte s'apparente à un show. L'église, entreprise de service, où l'on privilégie la bonne organisation et les techniques modernes de management, l'église-école, où c'est l'excellente formation théologique du prédicateur qui est primordiale, l'église-cocon, où l'accueil et la prise en compte du besoin de l'autre est le moteur, l'église-base de commando, dans laquelle on entraîne, forme et pousse les membres à être des militants de l'évangélisation dans le monde. Tout ça, c'est un peu caricatural. Les auteurs l'admettent. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de nous, de notre communauté, de ce que sont les églises qui constituent l'Église universelle dans ces descriptions? Et finalement, en nous accrochant à tel ou tel point qui nous semble être important pour la vie et la croissance de la communauté, est-ce qu'on ne perd pas de vue l'essentiel ? Toujours dans ce livre, pour une fois réfléchi, j'ai trouvé cette illustration. Alors, est-ce que vous arrivez à lire ? Hein, la réflexion, c'est rigolo. Les chats s'attachent plus à leur territoire qu'à leur maître. Un peu comme certains croyants avec leur église. Est-ce qu'il n'est pas bon de se poser la question pour quelles raisons nous venons à l'église ? Pour tout ce que je viens de citer, des diverses sortes d'églises, et alors cela signifie qu'elle doit être comme nous, nous avons décidé qu'elle soit, comme nous, nous avons choisi qu'elle soit. Ou bien est-ce que nous venons à l'église et nous y investissons du temps parce que c'est l'endroit où nous nous sentons convoqués ? Et c'est ça le sens étymologique du mot église, être convoqué. Donc, nous sommes convoqués par Dieu pour venir l'adorer et écouter sa parole. Parce que c'est là que nous rencontrons les frères et sœurs qui, comme nous, sont élus de Dieu et ont été rachetés par le sang de Jésus-Christ versé à la croix. Merci de nous l'avoir si bien rappelé, Maneva. Est-ce que nous sommes membres d'un club dans lequel nous définissons des règles en fonction de notre propre sensibilité? Ou bien sommes-nous membres d'un même corps qui a pour tête Jésus-Christ, selon ce que nous pouvons lire en Colossiens 1, les versets 16 à 18? Oui, par lui et pour lui tout a été créé. Il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Les réponses à ces réflexions peuvent, à ces questions peuvent nous conduire à comprendre ce qu'est l'Église, une, sainte, universelle et apostolique. Alors, arrivé à ce stade de nos réflexions, je vous propose de nous pencher sur un long texte du Nouveau Testament qui nous parle de l'Église au travers de 7 églises particulières. Si vous êtes familier de la Bible, vous avez compris que je vous propose de parcourir le début du livre de l'Apocalypse, en particulier les chapitres 2 et 3 qui sont les lettres A. Alors, étant donné la longueur du texte, nous ne le lirons pas en entier ce matin. Ceux qui ont leur Bible, vous pouvez garder Apocalypse, chapitres 2 et 3, devant vous au fur et à mesure où je parlerai. Mais je vous encourage en tout cas à relire ces chapitres attentivement chez vous. Et ce matin, je me contenterai de lire l'introduction à ces lettres dans Apocalypse 1, les versets 10 à 20. Le jour du Seigneur, l'Esprit de Dieu se saisit de moi, et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait : Inscris dans un livre ce que tu vois et envoie-le à ces 7 églises : Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Je me retournai pour découvrir quelle était cette voix. Et l'ayant fait, voici ce que je vis. Il y avait 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un homme. Il portait une longue tunique et une ceinture d'or lui entourait la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, oui, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme ardente, et ses pieds étincelaient comme du bronze incandescent au sortir d'un creuset. Sa voix retentissait comme celle des grandes eaux. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant. Son visage était éblouissant comme le soleil quand il brille de tout son éclat. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Alors il posa sa main droite sur moi en disant : N'aie pas peur, moi, je suis le premier et le dernier. Le vivant. J'ai été mort et voici, je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va arriver ensuite. Mais d'abord, voici quel est le secret des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers, les 7 églises. Alors, je vais revenir en arrière parce que vous pouvez voir qu'il y a des choses que j'ai mis un peu en gras. Et en fait, ces choses qui sont en gras vont être reprises dans l'entête, dans ce qui est adressé à chacune des 7 églises. Elles vont à chaque fois qualifier celui qui dit. C'est ce qu'il est. En lisant cette description, nous essayons d'imaginer cette vision de Jésus-Christ, une vision magnifique et grandiose que l'apôtre Jean a reçue. Alors que le Seigneur tient dans ses mains les 7 étoiles qui sont les anges des 7 églises, il est au centre des chandeliers qui sont ces 7 églises. Il est donc celui qui siège au milieu de son peuple, qui est sa tête, en qui tout existe et prend vie. Il est aux commandes. Ainsi, ces sept églises, bien dissociées les unes des autres, sont les parties d'un même tout, qui est l'Église de Jésus-Christ. Elles présentent chacune une image, un reflet de ce que peut être sur terre cette Église, une, sainte et universelle. Les auteurs du nouveau commentaire biblique contemporain remarquent « Le décor de chaque scène s'inspire du culte célébré dans le tabernacle et dans le temple de l'Ancien Testament. » Ici, les sept chandeliers évoquent manifestement le chandelier à sept branches situé dans le sanctuaire, car le peuple de Dieu est à la fois la demeure de Dieu sur terre. Nous retrouvons ça en Éphésiens, chapitre 2, les versets 21 et 22, et la lumière du monde, que nous retrouvons en Matthieu 5, 16. Alors, bien sûr, tout lecteur de la Bible aura remarqué aussi que les églises sont nombre de sept, nombre particulier de la Bible, qui indique souvent la perfection, la plénitude. Tout cela renforce l'idée que les paroles s'adressent non seulement à chacune de ces sept communautés, mais surtout à l'Église universelle. Nous retrouvons cette même unité en lisant les sept révélations. Elles commencent toutes de la même façon. À l'ange de l'Église de... alors d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, écrit « Voici ce que dit celui qui ». Vous retrouvez cette formulation exactement dans les sept en tête. Et de même, ça se termine à chaque fois par la même phrase, « Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises ». Donc finalement, c'est cette unité qui persiste, même si elle est dévoilée sur cette communauté. Alors, regardons de plus près les révélations faites sur ces églises qui peuvent nous encourager. Ça n'avance plus. Encore maintenant, en 2025, à tenir ferme et à ne pas nous détourner du Seigneur. Je peux avoir la diapo suivante. Donc, c'est cette église, les voilà. Et nous remarquons, en les situant sur la carte, qu'elles ne sont pas éparpillées au hasard. Elles forment un circuit naturel dans le sens des aiguilles d'une montre. Et par exemple, un cavalier qui partait d'Éphèse pouvait les parcourir l'une après l'autre, un peu comme un circuit touristique à la recherche de nos racines chrétiennes. J'ai repris dans un petit tableau ce que nous rapportent ces révélations. Donc, vous pouvez voir qu'il y a des qualités qui sont louées pour chaque église et puis des défauts, des choses qui vont mal. Donc, si vous lisez rapidement le tableau, vous retrouvez ces qualités et vous constatez qu'à Laodicée, le Seigneur ne donne même pas de qualité à cette église. Alors, si on pense à nous, église de Clermont-Ferrand, comme une église à qui on aurait pu adresser une lettre, pour ma part, je ne souhaiterais pas que nous soyons l'église de Laodicée. Mais gardez en tête que même si ce que le Christ déclare sur chacune des églises, c'est pour cette église, ça s'adresse à l'église universelle et ça s'adresse à nous. Alors voyons chacune de ces églises. Éphèse. Voici ce qu'il reste de la ville d'Éphèse actuellement. Avec Hervé, nous avons eu la joie d'y aller il y a 2 ans et c'est vraiment impressionnant. C'était une grande ville d'au moins 250 000 habitants, plaque tournante de la région pour le commerce, l'économie, la politique, la culture. C'était la capitale de la province romaine d'Asie Mineure et elle y jouissait d'une grande influence. C'était aussi un centre religieux important, consacré à la déesse Artémis. Vous connaissez tous l'histoire là, des statues de la déesse Artémis. Elle était également connue pour ses pratiques magiques, ses magiciens, ses sorciers, ses charlatans de toutes sortes. Et le Seigneur insiste sur la persévérance de cette église, mais aussi sur le fait qu'elle a perdu son premier amour. Dans cette ville riche et prospère, les chrétiens ont souffert, mais ils ont persévéré, faisant preuve de discernement face aux mensonges. Pourtant, le feu de la conversion, du coup de foudre de la rencontre avec Dieu, s'est peu à peu éteint. Et nous nous reconnaissons parfois dans cette description, non ? Comme dans un vieux couple parfois, l'amour est toujours là, mais la passion s'est émoussée. C'est ainsi que nous nous comportons. Nous venons au culte, nous chantons, nous prions, nous écoutons la prédication. Nous essayons même de prendre chaque jour un temps avec Dieu, mais tout cela est juste devenu une habitude, une bonne habitude. Et si quelque chose vient nous interpeller, tout est vite enfoui sous la routine de notre vie chrétienne. Moi aussi, je suis caricaturale, comme pour une fois réfléchie. Peut-être, mais pas complètement. Smyrne. C'était une église qui faisait face à la persécution et aux menaces de mort. Le Seigneur ne lui promet pas la délivrance. Il l'encourage à rester ferme jusqu'au bout pour recevoir la vie éternelle, la récompense pour une fidélité indéfectible. Il sait qu'elle peut résister. Au IIe siècle après Jésus-Christ, Polycarpe, l'évêque de Smyrne, mourut en martyr. Il avait refusé de reconnaître publiquement César comme Seigneur. Il a refusé le compromis. Le Seigneur dit à cette église, « Tu es riche et tu ne le sais pas. » Est-ce que nous, nous savons entendre que nous sommes riches de la force que Dieu nous donne ? Est-ce que nous ne préférons pas plutôt écouter les appels du monde qui veulent nous faire croire que certaines pratiques ne sont pas si mauvaises, qu'il ne faut pas être trop rigoriste ? Je me souviens de jeunes étudiants camerounais qui voulaient parfois mettre toutes les chances de leur côté en acceptant de pratiquer des rites de maraboutage pour réussir leurs examens. Ils ne choisissaient certes pas le chemin qu'a pris Polycarpe. Et c'était vraiment pour nous une joie lorsque nous entendions un jeune témoigner qu'il n'avait fait confiance qu'à son Dieu au moment de se présenter à l'examen. Est-ce que nous restons nous aussi fermes dans notre foi parce que nous sommes riches de cette foi ? Pergame aussi est désignée comme l'église qui est restée ferme dans sa foi. Toutefois, elle tolère au milieu d'elle des personnes qui sont disciples du culte de Balaam ou de la doctrine des Nicolaïtes, une secte présente dans la région à cette époque. Le Seigneur encourage donc son église à se détourner de ces personnes. Il est intéressant, en fouillant un peu dans l'histoire de cette ville, de constater qu'elle est à la fois l'alliée de Rome et un promoteur de la culture grecque en Asie mineure pour contrecarrer cette alliance romaine mal vue de la part des églises des villes grecques. Un peu comme si les habitants essaient de ménager la chèvre et le chou en toutes circonstances, dans la vie de tous les jours, mais aussi dans l'église. Et j'ai le sentiment que nous agissons aussi un peu comme cela pour notre part. Est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé de constater que telle ou telle personne se comportait mal dans l'église et de fermer les yeux pour ne pas faire de vagues, pour ne pas blesser parce que ça causerait du trouble parmi les frères et sœurs, parce que c'est votre ami et que l'amour supporte tout ? C'est alors maintenir un semblant de paix qui paraît être plus important que mettre Dieu et ses commandements en premier. Nous nous comportons un peu comme Élie avec ses fils. Nous savons le mal qui est fait, mais nous ne le dénonçons pas. Élie a réprimandé bien faiblement ses fils lorsqu'il a eu connaissance de leurs péchés. Il ne les a pas exclus du service pour Dieu. Mais ils ont offensé Dieu et Dieu lui-même les a punis, tout comme il a puni toute la descendance d'Élie. En refusant de dénoncer le mal et de l'exterminer, nous devenons complices devant Dieu. Et cela engage l'Église tout entière. Je ne vais pas m'étaler sur tous les scandales dont on entend parler, dont est coupable une certaine Église, mais cela rejaillit sur l'Église universelle. Thyatire. Thyatire est louée par le Seigneur pour ses œuvres, son amour, sa fidélité, son service et sa persévérance. Que j'aimerais entendre Dieu me dire cela. Mais en continuant notre lecture, nous lisons aussi que cette communauté laisse une prophétesse égarer les chrétiens par de faux enseignements. Dieu encourage alors l'Église à se détourner de cela en suivant le bon exemple de ceux qui restent fidèles à la vraie doctrine. Donc j'ai continué, hein. Vous savez ce qui arrivait à cette Église ? Au IIe siècle, elle s'est tout entière tournée vers le montanisme. C'est une doctrine hérétique selon laquelle un prêtre, Montanus, assisté de deux prêtresses, femmes riches, bien en vue dans la ville, était le consolateur promis par Jésus. Donc ce fameux Montanus était le consolateur. L'hérésie nous paraît tellement inouïe que l'on se demande comment une église tellement attachée au Christ ait pu y souscrire. Est-ce que nous ne nous laissons pas, nous aussi, détourner du vrai Dieu par des théologies farfelues ? Nombre d'entre nous ont entendu parler de la théologie de la prospérité, et elle a beaucoup d'adeptes dans notre société moderne. Alors Sardes, contrairement aux trois premières églises, n'est pas d'abord louée pour ses qualités. Mais elle est reprise par le Seigneur car elle paraît vivante, mais elle est morte. La ville était prospère et riche, célèbre pour ses élevages de moutons et l'industrie textile qui s'y était développée. Et là, vous avez la photo de la rivière sur laquelle elle est située. Est-ce que vous connaissez le nom de cette rivière, ceux qui sont forts en théologie et qui ont tout étudié ? Cette rivière, c'est la rivière Pactole. Il y avait de l'or dans cette rivière. Et curieusement, la lettre à l'église de Sardes ne fait état d'aucun péché particulier, ni de persécution, ni de pression extérieure ou de fausse doctrine infiltrée dans l'église. Tout semble plutôt aller comme sur des roulettes. Mais il semble que ce grand calme apparent soit le grand drame de l'église de Sardes. Sa vie facile était la preuve visible de son assoupissement. Le Seigneur voyait que son église dormait. Elle n'avait pas confiance en lui, elle avait confiance en la sécurité de ses richesses. Alors nous envions parfois les communautés où il n'y a pas de problème, où tout roule, où les offrandes sont tellement généreuses qu'il n'y a pas de problème financier d'aucune sorte. Ou bien nous aspirons au calme, au repos, parce que tout demande trop d'énergie. Mais le Seigneur nous met nous aussi en garde. Gardons une foi vivante, exultante, joyeuse. Gardons une relation authentique et saine avec lui pour accomplir les œuvres qu'il a préparées pour nous et non pour nous reposer sur nos lauriers. Sardes, finalement, a été totalement et complètement détruite en 1402, après un lent déclin. Philadelphie est reconnue par le Seigneur comme étant une église ayant peu de puissance, mais qui est restée ferme, qui a obéi à la parole et ne l'a pas reniée. Elle est louée parce qu'elle est capable de résister aux membres de la synagogue de Satan qui vont se prosterner devant elle. Et il est intéressant de connaître l'histoire de cette ville qui a dû faire face à de violents tremblements de terre et s'est relevée de ses ruines à chaque fois. Les tremblements de terre à Philadelphie étaient plus graves que dans d'autres régions. Un tremblement de terre catastrophique a dévasté Philadelphie en 17 avant Jésus-Christ. Et un géographe de l'époque qui s'appelait Strabon a d'ailleurs appelé Philadelphie la ville des tremblements de terre. Ainsi, ce trait de caractère, de persévérance et de résilience était profondément ancré dans l'âme des habitants de cette ville. N'est pas étonnant que les chrétiens le manifestent aussi dans leur propre vie au service de Dieu. C'est un exemple qui nous encourage, nous aussi, à persévérer et rebondir dans notre vie personnelle et notre vie d'Église. Nous voyons autour de nous des personnes qui se relèvent après des catastrophes, des chrétiens qui plongent dans un abîme de souffrance, par exemple s'ils perdent un enfant, mais qui se ressaisissent. Ils sont un exemple pour nous lorsqu'ils vivent malgré tout une vie de paix et de confiance envers le Seigneur. Soyons ces membres de l'Église qui savent que Dieu se tient en toutes circonstances à leur côté, qui ne se détournent pas en raison des épreuves. Et la Odyssée, je vous l'ai fait remarquer, c'est la seule église où le Seigneur ne trouve pas de point positif. Elle est présentée comme une église tiède, à tel point qu'elle donne envie de vomir. Elle aussi se croit protégée par la richesse de sa ville. La Odyssée était fière de sa puissance et de sa prospérité, d'autant plus qu'elle possédait une école de médecine réputée. Ces deux sources de richesse étaient la laine noire bleutée des moutons et un collyre mondialement célèbre à l'époque. Et on comprend alors mieux le verset 18 qui fait clairement référence à cette situation, au chapitre 3. Je le lis. « C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. » Des vêtements blancs, donc vous voyez, sa richesse, c'est la laine noire. Achète des vêtements blancs pour te couvrir, afin qu'on ne voie pas ta honteuse nudité, et un collyre pour soigner tes yeux, afin que tu puisses voir clair. Et il en est de même pour la tiédeur de l'Église qui indispose le Seigneur. C'est la situation géographique qui inspire cette comparaison. Et là, vous voyez exactement, hein, c'est la photo de ce lieu. À une dizaine de kilomètres de l'ancienne ville de Laodicée se trouvait Hiérapolis. De nos jours encore, il s'y trouve une série de piscines naturelles en terrasse. Une fontaine en hauteur déverse de l'eau chaude dans les piscines. L'eau est à 56 degrés et chaque piscine déverse son eau dans la piscine suivante. Ainsi, l'eau se rafraîchit progressivement. En bas, une chute d'eau fraîche tombe dans une piscine dans laquelle on trouve des stalactites et des stalagmites. À côté se trouve une piscine non chauffée, dont l'eau est à la même température que l'air. Alors vous pouvez tester la température de toutes les piscines. Et quand vous avez trouvé celle qui vous convient, vous y installez. Si vous souhaitez ensuite de l'eau plus chaude ou plus fraîche, vous montez ou vous descendez. On trouve des personnes qui ont une préférence pour l'eau chaude en haut ou pour l'eau froide en bas. Et beaucoup d'entre eux vont de l'une à l'autre. Mais personne ne se baigne au milieu, dans les piscines d'eau tiède. Ce n'est ni agréable ni relaxant. Et voilà d'où le Seigneur a tiré cette exhortation. Tu n'es ni froide ni bouillante, tu es tiède. Et il les menace, je vais te vomir. Alors, Jésus nous montre par ces descriptions qui sont empruntées au contexte précis de l'église de Laodicée qu'il connaît parfaitement la situation de chacun. Dans sa position frontière à l'entrée de la Phrygie, grâce à sa population qui était très mélangée, il y avait, alors je vous cite les peuples, il y en a que je ne connais pas, des Phrygiens, des Cariens, des Lydiens autochtones, puisqu'on est dans la province de Lydie, des colons grecs, des macédoniens, des syriens, des juifs très nombreux, Laodicée pouvait de façon optimum contribuer à une grande évangélisation. Mais pourtant, elle a manqué à cette mission. Sans doute en raison de son autosuffisance, de son autosatisfaction, qui l'empêchait de voir les réels besoins autour d'elle. Et nous ? Est-ce que nous avons acheté le bon collyre qui nous ouvre les yeux sur les besoins qui nous entourent ? Encore une exhortation pour nous que nous pouvons reprendre à notre compte. Alors voilà, j'ai passé brièvement en revue ces sept églises parce qu'il y a tellement de choses à dire, on ne pourrait pas, qui sont citées dans le livre de l'Apocalypse. Mais nous avons avec ces sept églises un aperçu de ce que Dieu voit dans son Église, de ce qu'il voudrait y garder, de ce qu'il ne veut plus y voir. J'essayais de l'appliquer à notre situation personnelle, mais ce qui est dit est valable pour l'Église universelle. Cette Église qui est également une, sainte, universelle et apostolique. En se laissant contaminer par ce qui l'entoure, par les conditions de vie locales, par les sectes, par les fausses doctrines, cette Église qui est pure et sans tache à cause du sang de Jésus prend des chemins de traverse et s'éloigne de son Dieu. Chaque Église locale pense souvent être la meilleure, celle qui ne se laisse pas corrompre. Mais ces lettres aux sept églises nous montrent que chacune a ses faiblesses. Et ce matin, l'Esprit nous rappelle que pour remporter la couronne de victoire, il nous faut revenir à sans cesse. Il nous faut revenir sans cesse à celui qui est la tête de l'Église, Jésus-Christ. Il nous rappelle qu'il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a appelé à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. Éphésiens 4, les versets 4 à 6. Alors si vous aussi, vous voulez proclamer que vous êtes membre de cette Église, de cette seule Église qui est celle de Jésus-Christ qui en est la tête, je vous invite à chanter ensemble ce chant comme notre prière commune, une seule Église.